Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. Nous prenons la direction de Boïkon au Bénin pour retrouver Élisée Nkpatine. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Merci Élisée. Nous retrouvons ici à Columbus, dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Donc Amdine Si. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
D'un moment à l'autre, nous allons peut-être avoir Jules Valentin Ngoué qui est aujourd'hui à Yaoundé et non pas à Libreville comme d'habitude. Nous parlons ce soir des matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubes de la CAF, la Supercoupe CAF donc et la Ligue des Champions. Et puis aussi, nous allons revenir sur la Supercoupe CAF remportée par l'USM Alger devant Al Ahly d'Égypte. Nous reviendrons aussi sur la polémique autour du stade de Bimpé en Côte d'Ivoire. Enfin, une fois n'est pas coutume, eh bien, Élisée Nkpatine va nous parler de pétanque aujourd'hui. Pétanque, bien sûr, avec la Coupe du Monde de cette discipline qui a pris fin à Cotonou, au Bénin. Merci à tous, en tout cas, de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous commençons bien évidemment par le football avec les rencontres du deuxième tour préliminaire aller des matchs interclubs de la CAF, entre autres résultats. La Ligue des Champions, succès sur le fil du tout-puissant Mazembe en déplacement au Malawi 1-0 face au Big Ballet. Et par contre, le Oroya de la Guinée s'est incliné chez les Ghanéens de Medeama SC 3-1. Amdine, le Oroya est quand même en difficulté depuis un bon moment.
Oui, vous avez raison, Yacouba. Le Oroya a été battu d'entrée, puisque le club guinéen était exempté quand même lors du premier tour. Mais malheureusement, les Guinéens n'ont pas été à la hauteur pour ce premier match. Pourtant, les Guinéens ont bien négocié quand même ce match, la première période, puisque ils ont fait jeu égal avec leurs adversaires. Mais la seconde période a été très, très, très mal négociée, puisque les Guinéens ont encaissé un but après seulement 4 minutes de jeu. Je veux dire, à la 49e minute, et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Rouges et Blancs ont perdu quand même un de leurs. À la 57e minute, il s'agit d'Ibrahima Aminata Kondé. Il a été exclu, il a écopé d'un carton rouge. Et les Ghanéens en ont profité. Ils ont profité de leur supériorité numérique pour marquer 2 buts en l'espace de 2 minutes. Donc, ils ont exclu le deuxième but à la 65e minute et le troisième à la 69e minute. Mais les Guinéens vont réduire le score. Ils vont réduire le score à la 89e minute grâce à Mohamed Fofana. Il faut dire que ce but de l'espoir peut permettre aux Guinéens de rêver, puisque il va falloir négocier la seconde manche, puisque ce but, avec ce but, si les Guinéens réussissent à marquer 2 buts sans en encaisser, ils peuvent décrocher la qualification. Mais comme vous l'avez dit, c'est très mal parti pour les Guinéens de Oréa qui se sont inclinés sur le score de 3-1 face aux Ghanéens. Yacouba.
Belle option prise aussi par l'Espérance de Tunis face au Burkinabé de l'AS Douane, battu 1-0, tout comme les Algériens du CR Belouizdad, victorie 3-1 en Sierra Leone contre Bo Rangers. C'est aussi presque fin pour les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns suite à leur victoire 4-0 sur le terrain des Burundais de Bumamuru. Idem pour les Tanzaniens de Nyanga, qui sont allés battre 2-0 les Soudanais d'El Merrek. Le FC Ouadibou de la Mauritanie fait un grand pas vers la phase de groupe après son succès 3-0 à Bamako devant l'AS Real. Pour le coach Noum Diané du Real, bien sûr, son club a encore sa chance à jouer.
C'est pas fini, voilà, c'est le football. Moi, on va aller en Mauritanie. Moi, je suis énormément déçu pour plusieurs raisons. Le nombre d'occasions qu'on s'est créées pendant le contrôle des ministres, c'est vraiment énorme, quoi.
Des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant dans la capitale malienne. Élisée, les Maliens peuvent se sentir quand même en danger, parce que ce n'est pas évident pour eux de pouvoir remonter 3 buts au match retour.
Ouais, bon, c'est presque acquis, Yacouba, on peut la redire, parce que remonter 3 buts du côté de Nouakchott, ça va être très difficile. Et encore que les FC Noisibou a beaucoup progressé, hein, puisque depuis 3 ans, le club du président de la Fédération Mauritanienne de football a mis assez de moyens, hein, pour pouvoir avoir le niveau de jouer au haut niveau. Là, il se regarde Bamako, entraîné par l'éternel, hein, le globe trotteur, Louis Granier, hein, qui quand même a du potentiel. Hein. Il a déjà entraîné les grands clubs du Mali, notamment le stade malien Djoliba, ou encore il a été sélectionneur de l'équipe locale du Mali. Donc vous imaginez, il a une expérience, il a une petite expérience, mais avoir un retard de 3 buts et aller combler ça du côté de Nouakchott avec une équipe professionnelle, puisque presque le FC Noisibou a rien que des internationaux, vous imaginez. Donc ça s'annonce très difficile, mais en football, rien n'est impossible. Si le FC Noisibou est venu marquer 3 buts du côté de Bamako, pourquoi pas l'Aïsraël de Bamako, encore que c'est le club de Salif Keïta, le premier ballon d'or mondial, le premier ballon d'or africain. Donc tout reste ouvert. Mais selon moi, comme vous l'avez dit, ça va être un résultat très difficile à remonter.
Voilà, Salif Keïta qui a commencé donc à jouer au football à l'AS Real du Bamako à seulement 16 ans. Nul un d'un but partout concédé à domicile par le Afia de Conakry devant le Wydad Casablanca. Nous retrouvons tout de suite Amine Birouk.
Le métier du Wydad a prévalu à Conakry face au Afia qui revenait à la compétition après une très longue éclipse. Les Wydadis ont pu bénéficier du métier de leurs cadors, en particulier les internationaux Jebran, Amloud, Atiatallah, plus le punch et la puissance de l'attaquant sénégalais Boudi Sambo qui a déjà marqué le premier but du Wydad cette saison de Champions League sur une reprise de la tête après un excellent coup franc. Il faut dire que ce match-là a été dominé par des actions dangereuses sur balle arrêtée puisque l'égalisation guinéenne est arrivée en fin de première mi-temps de la même façon. Le Wydad a un peu souffert en toute fin de rencontre avec notamment un ballon qui a tapé sur le poteau, mais a préservé l'essentiel en prévision du match retour au Maroc.
Succès précieux du tout-puissant Mazembe en déplacement au Malawi 1-0 face au Big Ballet. Et puis, hein, vous savez, les Corbeaux ont fait l'essentiel, vous le savez donc. Défaite, hein, des Marocains de l'AS Fas 0-1 devant les Tunisiens de l'Étoile du Sahel. Et pour Amine Birouk, justement, l'AS Fas a manqué d'expérience. On l'écoute.
L'AS Fas a pêché par excès de naïveté, une équipe trop joueuse à Sousse face à l'Étoile sportive du Sahel. Les militaires ont dominé quasiment toute la rencontre, ne laissant que des miettes à leurs adversaires. Et justement, sur une action isolée à la 66e minute, sur un coup de pied arrêté, les Tunisiens ont fait la différence et auraient même pu aggraver la marque sur des actions en transition en toute fin de rencontre. Les Fas vont devoir maintenant marquer 2 buts sans en concéder aucun lors de leur match qui se déroulera quasiment en exil à Marrakech dans une quinzaine de jours s'ils veulent voir la phase de groupe de la Champions League.
En dernier match de ce deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, allez donc, les Ivoiriens de l'ASEC d'Abidjan ont arraché le nul ce soir même 0-0 face au Libyen d'Alali Benghazi. Ne bougez pas, on va revenir dans quelques secondes. Football toujours, on jouait aussi le week-end, hein, le deuxième tour préliminaire aller en Coupe CAF. Les Ivoiriens d'Afad Djekanou se sont imposés 2-1 sur le terrain des Guinéens de Kouya. Élisée, c'est un avantage, mais assez mince quand même, hein, pour l'Afad.
Bien évidemment, puisque c'est des pays voisins, et encore que l'Afad Djekanou, hein, le club de l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de football, hein, celui-là qu'on connaît très bien et qui est aujourd'hui conseil spécial de l'ancien président de la CAF, Patrice Motsepe. Donc, c'est dire que, bon, un duel entre voisins, il faut faire très attention. C'est vrai que Djekanou est venu battre Kouya à domicile, mais tout ça l'a ouvert, hein, puisque nous avons vu à la phase présidente combien de fois ces Guinéens se sont bien comportés. Eh bien, ça va être un match très ouvert. C'est vrai, le résultat a déjà donné une idée clairement, mais une fois, je le dis encore, sur le terrain, tout reste ouvert. Le championnat guinéen a monté très grand depuis ces dernières années. C'est vrai que Oroya l'a monté très haut, mais aujourd'hui, Oroya a fait la politique de la formation puisque le président Antonio Soare n'investit plus autant pour pouvoir attacher les services de grands joueurs. Mais aujourd'hui, le championnat guinéen reste un championnat de référence dans la sous-région.
On retiendra aussi la belle victoire 2-0 des Djiboutiens d'Arta Solar sur le terrain justement du Zamalek du Caire. Alors, Amdine Sy, Arta Solar qui bat le Zamalek 2-0, c'est quand même un événement.
Ah oui, j'ai été vraiment séduit hein, par ces Djiboutiens qui ont créé l'espoir, battre le Zamalek par 2-0, il fallait le faire et ils l'ont fait. Cela montre tout simplement qu'il n'y a plus de petites équipes hein, dans ces compétitions interligues de la CAF. Et c'est valable aussi pour les éliminatoires de la CAF, de la Coupe du Monde, vraiment en Afrique. Les gens sont en train quand même de faire un travail colossal au niveau national d'abord. Des fois, il y a un problème de moyens qui peut faire la différence. Mais si on regarde bien les résultats, c'est ça qu'on aime. C'est pourquoi on aime quand même le sport, c'est pourquoi on aime le football, parce que voir une équipe égyptienne battre une équipe égyptienne comme le Zamalek, hein, le Zamalek qui n'est pas n'importe quelle équipe, et j'ai été également séduit par les Éthiopiens aussi qui ont battu le club africain. Cela veut tout simplement dire Yakuba qui a un nivellement vers le haut avec ses petits poussées qui empêchent au grand de dormir Yakuba.
2-0 aussi pour le stade malien de Bamako qui recevait les aigles noirs du Burundi. Mais pour le coach malien Sekou Sek Dibako, rien n'est encore joué.
Dire qu'on est déjà qualifié, non, loin de là. Je pense qu'on a joué une mi-temps. Certes, on a pris un certain avantage, mais il faut encore se préparer. Et moi, je pense qu'on serait prêt pour ce match retour. Un match de football reste 90 minutes. Il ne faut pas se focaliser sur ce qui s'est passé.
Apathy Vivier, coach de l'Aigle Noir du Burundi, estime pour sa part hein, que ses joueurs n'ont pas pu produire ce qu'ils ont préparé, mais ils comptent gagner à la manche retour.
Mais ça arrive, c'est du foot, il faut se préparer pour tout. Le 2-0, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, parce que c'est du foot. Il y a match retour, il y a autre chose qui va se passer pendant le prochain match, mais on espère qu'on va avoir un bon résultat. Tu peux perdre le premier match, réussir le deuxième match, tu peux ne pas le réussir, mais pour nous, c'est à le préparer.
Voilà, des propos recueillis par Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. 0-0 entre l'étoile filante de Ouagadougou et Rivers United du Nigeria. 2-1 en déplacement des Diables Noirs du Congo en Zambie contre Mouza. Défaite en revanche 3-1 des Cheminots de Loupopo sur le terrain des Sud-Africains de Sekou Kouné, United Sporting. Match nul, 2-2 entre les Nigériens de Bendel Insurance et la Renaissance sportive de Berkane. Un match polémique, nous dit Amin Birouk.
Des images un peu désolantes pour le football africain. Sur une rencontre qui n'a pas été télévisée, on a dû se contenter d'un streaming en Coupe de la CAF lors du match nul de la Renaissance sportive de Berkane, 2-2 face au Nigérien de Bendel Insurance, tombeur du représentant de l'Algérie, Chlef, lors du tour précédent. Faut dire que le match n'a pas été télévisé et on se demande aujourd'hui dans quelle mesure la CAF veut faire évoluer la compétition phare ou ses compétitions phares sans recours à de bonnes retransmissions dans des conditions calamiteuses sur des terrains qui ressemblent souvent à des champs de patates. On peut parler du stade Lansana Conté à Conakry, mais on peut parler davantage de cette rencontre qui a eu lieu à Benin City au Nigeria. 2-2 avec des réalisations des ex-joueurs du Shabab Mohamed Yamelioui et surtout Morabit qui préserve l'essentiel pour la Renaissance sportive de Berkane qui reviendra au Maroc dans son fief avec l'intention de composter son ticket qualificatif. Reste à savoir maintenant, est-ce que le FUS de Rabat pourrait accompagner l'équipe de la Renaissance sportive de Berkane? On le saura dans la mesure où son match a été décalé face à l'USMA Alger, récent vainqueur de la Supercoupe d'Afrique, une rencontre qui aura lieu samedi prochain à Rabat.
Alors, Amdine, Amine pousse pratiquement un ras-le-bol. Des stades sont suspendus par la CAF parce que non conformes. Peut-être qu'il faudrait aussi regarder sur ces terrains qui accueillent ces rencontres des compétitions de clubs.
Oui, Amine a raison, hein, parce que vraiment, il y a certains pays qui doivent faire des efforts. Le football, vraiment, il faut le jouer dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Puisqu'on ne peut pas comprendre, les Marocains ne sont pas à l'aise quand ils voyagent. Ils ont de bonnes pelouses, mais quand ils voient, ils jouent chez des champs de patates. Nous, au Sénégal, on a connu ça. On a connu ça parce que tout le monde parle du Sénégal, tout le monde parle des Lions de la Teranga, tout le monde parle de Sadio Mané, d'Ismaël Sarr, de Gane Gueye. Mais quand quelqu'un venait jouer au Sénégal, c'était la croix et la bannière parce qu'on n'avait pas de bonnes pelouses. Heureusement, on a construit un stade vraiment de dernière génération, qui est le stade Abdoulaye Wade. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Le football, ce n'est plus une affaire de loisirs. C'est une économie autour. Donc, il faut que les gens soient dans de bonnes conditions. Mais on ne peut pas comprendre que c'est certains pays seulement, au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, des fois au Burkina, au Nigeria. Mais ce n'est pas normal. On doit faire des efforts. On doit faire des efforts. On connaît tellement de joueurs africains qui brillent au niveau des championnats européens. Mais quand ils viennent dans leur pays, c'est vraiment lamentable. Donc, les dirigeants doivent faire des efforts par rapport à ça parce que c'est vraiment humiliant, Yacouba.
Voilà, qui est bien dit. Les rencontres retour de ces matchs du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF auront lieu à la fin de cette semaine. Et puis, sans transition, vous le savez, le club algérien de l'USM Alger, vainqueur de la Coupe CAF, a remporté la Super Coupe d'Afrique en battant vendredi dernier le club égyptien dans la Ligue 0-1, vainqueur de la Ligue des Champions à la Ligue. Donc, cette finale de la Super Coupe CAF s'est disputée à Taïf, en Arabie Saoudite. Élysée, c'est un sacré coup, il faut le reconnaître, pour les Algériens qui soulèvent leur premier trophée de cette Super Coupe CAF.
Oui, d'ailleurs, même quand vous prenez le trophée de la Coupe de la CAF qu'ils ont remporté, et quand on retourne, jette un coup d'œil sur l'année de naissance, hein, avec la durée qu'il a eue avant de remporter la Coupe CAF, ça en dit long. Aujourd'hui, ils ont pratiqué un très bon football, hein, le vendredi dernier, puisqu'ils ont résisté aux assauts offensifs des Égyptiens. Les Égyptiens, c'est vrai qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, mais face au Wydad, où sur le match aller-retour, les Marocains méritaient plus. Maintenant, sur cette seule rencontre, puisque tout s'était joué sur une seule rencontre, et là, on ne parlera plus de domicile ni d'intérieur. Ça a eu lieu du côté de l'Afrique du Sud. Et les Algériens, avec leur entraîneur, ont joué un sale tour aux Égyptiens qui n'ont pas du tout hésité. C'est vrai que, bon, ils se sont procurés certaines occasions, mais on voit plus dans le match l'USM Alger et qui a su profiter de ces moments forts. D'abord, le pénalty et ce but qui lui a donné pratiquement le trophée. Donc, un premier trophée remporté face à un géant du continent, puisque qui parle du géant du continent, le plus géant même, c'est bien sûr le national à la Ligue du Caire. Les Égyptiens n'ont jamais su refaire leur retard. Et en termes de résultats, eh bien, les Algériens ont chippé ce trophée aux Égyptiens. On ne peut que leur dire bravo.
Voilà, on ne peut que leur dire bravo. Alors, Amdine, ça fait un bon moment que cette Super Coupe CAF se dispute hors du continent. Loin donc, souvent, des supporters des clubs concernés, en tout cas pour la plupart des supporters. Le gain financier pourrait l'emporter, hein, mais est-ce que, justement, l'aspect sportif ne prend pas un coup?
Si, l'aspect sportif prend quand même un coup, parce que quand on organise un match de football, c'est pour faire plaisir aux supporters des équipes d'abord, et on sait qu'on est en Afrique, il n'y a pas beaucoup de moyens, les supporters n'ont pas beaucoup de moyens pour effectuer des déplacements à l'étranger. Mais moi, je pense que le fait d'organiser aussi ces rencontres dans des pays comme l'Arabie Saoudite, c'est devenu un mal nécessaire. Parce que en sport, il faut tout faire aussi pour gagner beaucoup d'argent. Si tu ne fais pas tout pour gagner beaucoup d'argent, tu risques de ne pas pouvoir monter une bonne équipe. Si on voit beaucoup de joueurs au niveau du continent s'exilent, c'est pourquoi? C'est pour gagner l'argent. Si on parvient à faire en sorte que les clubs du continent puissent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de joueurs vont pouvoir rester dans le continent parce qu'ils pourront avoir quand même de l'argent pour subvenir à leurs besoins. C'est pourquoi c'est un peu difficile quand même de trancher cette question. Mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Surtout, c'est un club d'Algérie et un club d'Égypte qui joue en Arabie, dans un pays arabe. Ce n'est pas tellement grave. Mais faisons en sorte que les matchs des clubs africains puissent se jouer dans le continent et dans les pays des équipes qui doivent jouer. Je pense que c'est important pour les supporters, parce que quand on organise des matchs aussi, c'est pour ses supporters, Yacouba.
c'était une scène pas intéressante, observée en tout cas lors du match amical Côte d'Ivoire-Mali la semaine dernière à Ebempe, en banlieue d'Abidjan. Rencontre interrompue à la pause parce que la pelouse était trempée d'eau suite à une forte pluie. À 4 mois du coup d'envoi de la CAN au bord de la lagune Ébrier, du 13 janvier au 11 février 2024, cela a suscité beaucoup de critiques des internautes surtout. Le ministre ivoirien des Sports, Paulin Dano, avait expliqué cette situation par une pluie exceptionnelle, selon ses mots, avant de présenter ses excuses. Il dit avoir fait appel à des experts pour apporter des corrections, dont un drainage, afin de tenir compte de la pluie. Et pour cela, une rallonge budgétaire de 20 milliards de francs CFA a été faite par l'Assemblée nationale pour reprendre, entre autres, la pelouse par du gazon hybride. 163 milliards au total pour ce stade. Alors, Amdine, je reviens à vous. Il fallait quand même songer très tôt à ce gazon hybride, comme cela est le cas présentement avec le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio.
Mais le problème, c'est qu'ils avaient parlé du gazon hybride en fermant ce stade après ce fort match Côte d'Ivoire, Cameroun comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. On se rappelle encore, les Camerounais avaient alerté sur l'état de cette pelouse et on avait fermé, sur décision du président de la République, on avait fermé ce stade et les autorités avaient promis quand même de refaire le gazon en installant un gazon hybride, mais cela n'a pas été le cas. On a mis des milliards. On revient encore pour mettre des milliards à quelques mois de la CAN, de l'ouverture de la CAN. Mais c'est inadmissible. C'est inadmissible ce qui se passe dans le continent et ce qui se passe au niveau de nos pays. Non, ça va. La scène, un match amical international, Côte d'Ivoire contre le Mali, télévisé par plusieurs chaînes de télévision au niveau du monde. Et le match s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une pluie diluvienne pour un stade flambant neuf comme ça.
Amdine, on comprend bien votre colère. Je suis obligé d'aller plus vite pour parler tout de suite de pétanque avec la fin de la Coupe du Monde à Cotonou. La Thaïlande a remporté la 50e édition de cette compétition en battant l'Espagne en finale 13 à 10. Eh bien, Élisée Nkpatine a eu un entretien avec le président de la Fédération internationale de pétanque, Claude Azéma. Entretien qu'on suit tout de suite.
Je retiens la qualité de l'organisation, la beauté du site aménagé et puis le travail exceptionnel accompli par les bénévoles et par la fédération avec la Confédération de l'Afrique. C'est essentiel.
Voilà. La Thaïlande qui succède à la France en finale.
Oui, ça c'est très bien. C'est la Thaïlande est un des premiers pays en qualité de jeu, les hommes, les femmes, les jeunes. Et c'est un sacré mérité. C'est la première fois qu'il gagne la triplette.
C'est vrai, ça n'a pas eu lieu dans un bleu d'homme ouvert. Vous pouvez demander ce que vous voulez.
Non, mais ça a bien été. On a eu des ennuis avec la pluie, mais avec le travail des bénévoles qu'il y avait sur place, il n'y a eu aucun souci pour sécher les terrains, pour les remettre en place. Non, c'est vraiment extraordinaire.
On a remarqué l'absence de Madagascar.
Avec Madagascar, ils sont interdits de manifestation internationale depuis 2 ans. Donc, ils vont peut-être trouver leur statut à la fin de l'année pour aller aux féminines, mais c'est encore en discussion chez eux. Ils avaient une fédération qui ne fonctionnait pas normalement, qui n'était pas indépendante de l'État. Donc, elle est pour l'instant suspendue d'activité. Ils étaient présents au congrès. Mais en activité, ils n'ont pas le droit de participer au championnat du monde.
Le Bénin qui remporte enfin un titre mondial.
Oui, c'est bien, c'est dommage qu'après, ils aient un peu craqué pour les autres disciplines. Mais c'est bien un titre mondial pour le Bénin, c'est aussi exceptionnel, c'est vraiment bien.
C'est extraordinaire.
Mais il faudra continuer, il ne faut pas se contenter d'un événement, que ce soit pour les Bénins ou pour les pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut profiter de l'élan que cela donne, vu la qualité des joueurs, hommes et femmes, dans tous ces départements, dans tous ces pays. C'est vraiment, il faut continuer dans cette voie.
Est-ce que la prochaine édition, on verra encore.
La prochaine édition est arrêtée, elle est en France. Donc, ce sera une édition différente, différemment organisée, en intérieur, plutôt le côté spectaculaire. Mais on est prêt à revenir aussi bien en Afrique qu'en Asie ou en Amérique pour gagner les championnats du monde.
Voilà, un entretien avec Élisée Nkpatine qu'on retrouve tout de suite. Élisée, en 15-20 secondes, la pétanque n'est pas une discipline populaire en termes d'engouement. Est-ce que vous avez senti un intérêt particulier du public pour cette discipline?
Non, mais au Bénin, c'est un sport qui attire plus d'attention, bizarrement. Comme on le voit au Sénégal, la lutte traditionnelle au Bénin, la pétanque est jouée presque dans toutes les rues ici. Hein. Moi, j'ai commencé par même jouer la pétanque au collège hein, dans les années, au début des années 90. Vous imaginez, c'est un sport populaire. Une fois encore, quand le Bénin a remporté la médaille d'or au niveau des doublettes, hein, Miss, ça a fait beaucoup, ça avait réagi beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, c'est une organisation réussie parce que c'est cela qu'on retient.
Voilà.
Ce n'était pas évident. C'est depuis l'année dernière qu'on devait organiser ce mondial. Donc,
merci
organisation
beaucoup.
Réussie comme l'a reconnu Kodazi.
Merci beaucoup, Élisée Mpatine. Ici, donc, nous refermons ce numéro de Sporama. Merci à vous, hein. Élisée Mpatine, Amine Birouk, Jules Valentin Ngoué, qu'on n'a pas retrouvé malheureusement. Amdine Si, merci à Joselle Morissin pour la réalisation. On va se retrouver la semaine prochaine en attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal.